6. La folie d'Akab. Les pupilles brûlantes, le visage rougi par l'agitation, Akab est redescendu dans sa cabine tout de suite après avoir bu, laissant sur le pont l'équipage enflammé. Il se tenait la tête, les poings fermés, et s'est mis à se parler à lui-même.
Le soleil décline lentement. Il va bientôt disparaître. Tandis que mon âme s'élève, que cette montée est longue et difficile. Peut-être est-elle trop pesante. C'est sans doute à cause de la couronne que je porte, une lourde couronne en or couverte de pierres précieuses. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que cette couronne me rend confus. Ah! Je la vois, c'est du fer, pas de l'or. Elle est cassée. Ses pics entrent dans ma peau et me blessent. Mon cerveau souffre, il saigne. Ma tête est de fer, plus besoin de lutter. Mon front brûle. À une époque, la douce lumière l'éclairait. C'est fini. Aujourd'hui, la beauté m'angoisse. Elle est insupportable. J'avais imaginé qu'il serait plus compliqué de les convaincre. Cela n'a pas été si difficile. Un peu d'or, de l'alcool, des cris, de l'agitation. Seul Starbuck a essayé de résister, mais à peine, un peu. Sans beaucoup de révolte. Quelques paroles ont suffi à lui faire suivre les autres. Ils sont face à moi comme de la poudre à canon. Et moi, je suis l'étincelle. Je brûle. Je communique la flamme. J'ose. Ce que je veux, je le ferai. Ils me croient fou. Ils ont tort. Je suis satanique. Je suis la folie furieuse elle-même. Les prédictions veulent que je sois mortellement blessé. Eh bien moi, je prédis que c'est moi qui vais mortellement blesser. Vous m'avez abattu et je me suis relevé. Mon chemin est tracé. Aucun obstacle ne pourra m'empêcher d'avancer. Rien, ni personne, ne m'arrêtera.
Les jours passaient. Akab restait tout entier occupé par son obsession. Il tournait sur le pont, regardait l'horizon, puis redescendait dans sa cabine, où il mesurait et remesurait méthodiquement. Si vous aviez pu le suivre à bord, vous l'auriez vu dans sa cabine. Chaque soir, ouvrir un grand coffre et en sortir des rouleaux de cartes. Parfois, il étudiait de vieux livres jaunis par le temps. Parfois, il traçait des traits à des endroits encore inexplorés. Et puis, le jour suivant, il effaçait et recommençait. Au-dessus de sa tête, la lampe à huile se balançait au rythme des vagues, dessinant sur son front des zones de lumière et des zones d'ombre qui accentuaient ses rides et les projetaient sur les cartes. Si bien que les cartes des quatre océans, elles aussi, paraissaient étrangement ridées. Vous pensez sans doute que chercher un seul cétacé dans quatre immenses océans, cela n'a pas de sens. Eh bien, sachez qu'Akab n'était pas de cet avis. Il connaissait les habitudes de l'animal, sa nourriture favorite, les mouvements des courants marins et des marées. Il était donc capable de prévoir dans quelle direction serait transportée la nourriture du cachalot. Sachant où il était passé les années précédentes, cela peut sembler incroyable, mais il pouvait presque savoir à quel endroit trouver sa proie. Si on réfléchit bien, ce n'est pas étonnant. Les cétacés, tous les chasseurs de baleines le savent, voyagent en suivant les saisons comme le font certains bancs de poissons et les oiseaux migrateurs. On ne l'a pas étudié avec précision, mais si l'on comparait les carnets de bord de toute la flotte baleinière, il est évident que l'on pourrait prouver qu'ils reviennent toujours aux mêmes endroits. C'est avec cette certitude qu'Akab travaillait nerveusement des heures durant, seul, dans sa cabine, de nuit comme de jour. Il savait que Moby Dick avait été aperçu dans les mêmes régions, aux mêmes époques de l'année, suivant toujours la même voie, comme le soleil suit toujours le même parcours. Ainsi, il pouvait espérer trouver sa proie, soit dans les eaux où elle trouvait sa nourriture, soit sur son chemin entre ces eaux. Et bien sûr, grâce à ses analyses et à ses calculs, il était capable d'estimer à quelques centaines de kilomètres près où et quand la retrouver. Et c'était dans les eaux où il l'avait déjà combattue qu'il voulait l'attaquer à nouveau, au large de l'équateur, au moment de notre hiver, parce qu'à ce moment de l'année, les cétacés viennent profiter de l'eau qui y est plus chaude. Il avait sûrement prévu notre vrai trajet depuis le départ. Mais pour ne pas dévoiler aux armateurs son projet de folle vengeance, il avait d'abord annoncé que nous allions passer par le Cap Horn pour rejoindre le Pacifique. C'était le chemin le plus court, le plus évident pour aller chasser les baleines. Nous avons donc descendu l'océan Atlantique vers le sud, et arrivé au niveau des côtes brésiliennes, il a décidé de changer la trajectoire et de se diriger vers l'est, vers l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance, l'océan Indien, pour atteindre l'océan Pacifique en passant par l'Asie. Ce parcours était beaucoup plus long et c'est ce qu'il cherchait. Il voulait en réalité mettre un an pour arriver sur la ligne de l'équateur, en passant par les Philippines et le Japon, région riche en baleines. Nous avions donc le temps de chasser d'autres baleines et d'accumuler de l'huile avant de rejoindre la ligne de l'équateur au moment de notre hiver. À cette époque de l'année, les eaux équatoriales sont l'endroit rêvé pour les cachalots. C'est là qu'il avait affronté Moby Dick et qu'il espérait le voir mourir un an plus tard. Quant à savoir s'il allait le reconnaître parmi les autres de son espèce, cela ne faisait aucun doute. Et dans ces moments de solitude, comme pour se rassurer, il se rappelait « J'ai moi-même troué les nageoires de ce monstre. » Et je l'ai transpercé de plusieurs fers qui doivent toujours y être. Ces marques sont uniques. Je le reconnaîtrai avant même de l'avoir vu. Les mois passaient. Après le Cap de Bonne-Espérance, nous avons traversé l'océan Indien et les mers Asiatiques, avant de longer les Philippines. Pour l'heure, les eaux étaient calmes, sans vagues et peu profondes. Un jour sans vent, le léger souffle chaud de l'air semblait caresser les voiles. Le Pequod, entraîné par cet air délicat, glissait sur l'océan. Il était ce matin-là d'une magnifique couleur argentée, lisse, limpide. L'immensité du bleu du ciel s'y reflétait. Entre le ciel et la mer régnait une douce harmonie. Akab, qui sortait de plus en plus souvent, s'est mis à marteler le pont de son pas lourd. Il s'est arrêté au bout, appuyé à la rambarde. Il s'est penché et a regardé vers le bas. Son visage ridé, rude, balafré, noué, maladif, obstiné, se reflétait douloureusement sur la surface de l'eau si calme, si pure. Des mois, des années d'anxiété, d'envie de vengeance contenue, formaient comme un masque impénétrable. Et pourtant, ce jour-là était tellement beau et lumineux que sa force étrangement puissante a réussi à briser la dureté d'Akab. Comme si la lumière, à cet instant, avait le pouvoir de faire fondre les rides et la dureté afin de mettre à nu le visage de l'homme. Akab a versé une larme, une seule, une larme d'humanité qui est tombée dans l'eau. Cette larme d'Akab a rejoint le vaste et paisible océan. Et Starbuck, qui quelques mètres plus loin observait son capitaine, a été touché par ce signe d'émotion. Akab s'est retourné et l'a interpellé. « Starbuck, mon garçon, approche. Capitaine ?»« Starbuck,
As-tu vu comme le ciel est tendre? Comme la mer est calme aujourd'hui? Il y a 44 ans, par un temps aussi doux, j'ai piqué ma première baleine. Est-ce que tu te rends compte? Starbuck, depuis 40 ans, le vieil Aqab a quitté la terre pour affronter les monstres marins dans des océans sans pitié. Que de dangers affrontés, que de violence. 40 ans. 40 ans de harpons, de pirogues jetées à la mer et de tempêtes. 40 ans de solitude. 40 ans de vie salée, de vie sans herbe verte, sans fruits à portée de main, sans soirée au coin du feu. Ah, et Starbuck, sur ces 40 années, je n'ai passé que 3 ans, tout au plus, sur la terre ferme. Le reste de ma vie est une vie d'esclave. Aqab est enfermé dans une tour. Loin. Si loin de cette jeune femme que j'ai épousée. Loin de notre enfant. Si jeune. J'ai fait d'elle non pas une jeune mariée, mais une jeune veuve, une jeune femme dont le mari n'est pas. Car Aqab est absent, perdu dans sa chasse infinie, perdu dans sa folie. Mon sang bout, ma tête fume, surtout depuis que Moby Dick m'a arraché la jambe. Ma souffrance est si grande que je délire sans cesse. Plus que jamais, je suis prisonnier de ma vengeance. Ah, Starbuck, si tu savais comme je suis fatigué de cette vie. Mais aujourd'hui, Starbuck, la douceur de l'air me fait voir toutes ces années inutiles. Oui, je rêve de ma petite ville de Nantucket, de cette femme et de cet enfant qui m'attendent. Approche-toi, Starbuck, viens. Viens plus près. Je vois dans tes yeux le reflet de mon fils. Je vois ma femme, la tendresse abandonnée, la douceur oubliée. Bien sûr, capitaine, moi aussi j'ai laissé femme et enfant. Ma femme m'a promis que, chaque jour, après la sieste, elle conduirait mon enfant tout en haut de la colline de Nantucket. Ils me verront, c'est sûr. Ils me verront arriver au loin le jour de mon retour. Venez, capitaine, cette décision est sage. Laissons cette chasse impossible, folle et meurtrière. Faisons demi-tour. Retournons sur notre petite île de Nantucket. C'est là que nous devrions être, car c'est là qu'on nous attend. Capitaine, rentrons chez nous. Alors que le capitaine Aqab écoutait Starbuck, son regard a semblé tout à coup suspendu dans le vide, égaré dans les profondeurs infinies du ciel et de l'océan. Une étrange lumière a alors traversé les yeux du vieux capitaine. La paix inhabituelle qui l'avait envahi un moment était partie. Elle s'était envolée, avait disparu dans l'air comme une fumée. Il avait retrouvé son front ridé, marqué, blessé, inquiet, obsédé par l'apparition qui l'attendait. Ce n'était pas son île, sa femme, son enfant. C'était Moby Dick.